Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Bonsoir, le sommet sur le climat à l'ONU et les mots d'Emmanuel Macron à l'endroit des jeunes qui manifestent. Le premier jour du procès du médiateur et la PMA étendue à toutes les femmes demain à l'Assemblée nationale. C'est dans les informés avec Absatou Si, entrepreneuse, animatrice et chroniqueuse dans les médias. Avec Sarah Durieux, directrice de Change.org France, avec Gilles Bornstein, éditorialiste politique sur France Info, et Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien, aujourd'hui en France. Bonsoir à tous les quatre et bienvenue. Bonsoir. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Le sommet sur le climat de l'ONU à New York s'est donc ouvert sur les larmes de Greta Thunberg.
C'est n'importe quoi. Je ne devrais pas être là. Je devrais être à l'école, de l'autre côté de l'océan. Et pourtant, vous vous tournez tous vers nous, les jeunes, en quête d'espoir. Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Je fais pourtant partie de celles qui ont de la chance.
Voilà donc les mots, les larmes de Greta Thunberg. Bonsoir à vous, Julie-Marie Lecomte.
Bonsoir.
Envoyée spéciale de France Info à New York. Julie, pas simple de s'exprimer après une telle déclaration pour Emmanuel Macron, hein.
Ah non, et puis il n'avait pas vraiment le choix. Son intervention était prévue quasiment juste après. Alors il ne l'a pas cité, mais le président français a bel et bien répondu à Greta Thunberg avec un certain stoïcisme, dirons-nous, vu le contexte. Vous avez suivi l'histoire dans l'avion pour New York. Oui. Il y a eu des propos qui ont pu sembler ambigus à l'égard de tous ces jeunes qui manifestent. Pour dire les choses rapidement, il les a invités à aller manifester en Pologne plutôt que sous ses fenêtres. On pouvait y voir un certain mépris pour l'engagement de ces jeunes, on en reparlera tout à l'heure, ils s'en étaient expliqués. En tout cas, à la tribune de la salle de l'Assemblée Générale ici à l'ONU, Emmanuel Macron s'est montré tout à fait concerné. Ce cri, on ne saurait y répondre ici en disant que tout va bien, regardez, on fait ce qu'il faut, a-t-il dit. Finalement, Emmanuel Macron entend dans le cri de la rue ce qu'il pense lui-même. On peut avoir conscience de ce qui se passe, mais on ne va pas assez vite. Sa réponse, c'est de répéter quelque chose qu'il a déjà dit. Il compte sur la pression de la jeunesse et c'est notamment sur cette pression qu'il s'est appuyé pour lancer un appel assez vibrant aux pays qui doivent encore faire connaître leurs intentions, ce qui concerne la recapitalisation du fonds vert. Vous savez, ce fonds de l'ONU qui permet de transférer de l'argent des pays les plus riches vers les plus pauvres pour les aider à lutter contre le changement climatique. Mmh. Des actes, les a-t-il exhortés.
Alors, dernier mot avec vous, Julie-Marie Lecomte. Vous évoquiez la Pologne. Ces propos ont frisé quand même l'incident diplomatique.
Les Polonais n'ont pas du tout aimé. D'ailleurs, les propos d'Emmanuel Macron ont fait réagir, y compris la classe politique française, sur le thème « quand on n'est pas exemplaire soi-même, on évite de taper sur les autres ». Emmanuel Macron est venu nous parler tout à l'heure. Eh bien, ses propos sur la Pologne, finalement, il les assume. Il nous a réexpliqué que quand il dit « aller manifester en Pologne », ça veut dire « aller mettre la pression d'abord sur les gouvernements qui bloquent ». Et là, il parle de l'objectif de neutralité carbone en 2050. La Pologne ne fait pas partie des pays qui l'ont adoptée. Emmanuel Macron n'en démord pas. Il y a les bons et les mauvais élèves. Et lui, très clairement, il considère qu'il est dans la première catégorie. Je peux vous dire qu'il est très content, notamment de sa réunion de ce matin sur l'Amazonie.
Merci à vous, Julie-Marie Lecomte, en direct donc de Nations Unies, du siège, avec des moyens assurés par Olivia Branger. Merci d'avoir été en direct. C'est le début de l'après-midi à New York. Absatou Si, pour revenir sur la séquence, tout d'abord, ces larmes de Greta Thunberg. Elle a frappé fort.
Elle est, cette jeune fille, moi, je la trouve très courageuse. Elle est critiquée avec une violence folle par des anonymes, mais aussi par des personnes qui ont le pouvoir et qui pourtant n'ont absolument rien fait. Le message qu'elle porte, cette jeune fille, c'est le message de millions de jeunes. Vous savez, on a développé dans notre société une maladie. L'éco-anxiété. Voilà, ce sont des gens qui développent des angoisses liées justement à tout ce qui se passe au niveau environnemental.
C'est une pathologie, quoi.
Voilà, c'est une pathologie aujourd'hui. C'est ce qu'on a développé. Et on est juste en train, la maison brûle et puis on est en train de prendre un bain. tranquille, et on se dit qu'on a le temps. Nous sommes en train de détruire la planète à 80 à l'heure, et pourtant, nous prenons le temps à 20 à l'heure de discuter. J'ai l'impression que ce sont des mesurettes qui sont prises, alors que l'ampleur du sujet, la gravité du sujet nécessiterait des actions extrêmement fortes. Des mesurettes, on est capable de faire changer en tout cas les choses, et à New York, avec un président complètement climato-sceptique, Monsieur Trump, je le rappelle, c'est quand même juste... Bon, je trouve qu'il y a... Elle est à écouter, cette jeune fille, parce qu'elle porte le message de la jeunesse aujourd'hui.
Henri Vernet, on va revenir sur les propos présidentiels à bord de l'avion. Mais d'abord, ce qu'a dit Greta Thunberg, je la cite, elle dit « Nous sommes au début d'une extinction de masse. Tout ce dont vous parlez, c'est d'argent, de compte de fées, de croissance économique éternelle. Comment osez-vous ? » C'est étonnant, cette jeune personne qui
c'est étonnant.
Parle à la planète.
Attendez, enfin, la prestation ou le, comment dire, ou le rôle de Greta Thunberg, on commence à le connaître, c'est le numéro. Mais c'est pas péjoratif quand je dis numéro, parce que, c'est en effet, c'est, moi, je suis plutôt d'accord avec le constat qu'elle fait, bien évidemment. C'est vrai qu'il y a urgence. Mais d'abord, elle est pas la première à le dire. Même Chirac, le président Chirac, tout ancien monde, tout vieux monsieur soit-il, il l'avait dit en 2003 au sommet de la planète à Johannesburg. Donc, ce constat, il est très partagé. Elle le dit avec cette dramatisation, avec tout ce qu'il y a autour de Greta Thunberg, de ce phénomène, de cet accélérateur, je dirais, de prise de conscience. Je suis d'accord que c'est agaçant quand elle est vouée hégémonie, quand elle est prise pour cible de manière très facile, caricaturale, sarcastique, tout ce qu'on voudra. C'est agaçant, elle dit des vérités. Néanmoins, je veux dire, ce constat, elle n'est vraiment pas la première à le faire. Dire que ce sont des mesurettes... Non, c'est pas vraiment des mesurettes, c'est surtout qu'il y a des grosses machines en face, celle de Bolsonaro, celle de Trump, etc., qui sont contre ça, mais je veux dire, moi je suis au contraire frappé, très sincèrement, ces toutes dernières années, par la prise de conscience accélérée qui s'opère dans la société civile, chez les politiques, que les mesures ne suivent pas, bien évidemment ça prend
prise
du temps,
mais au contraire, mondiale,
bien sûr, bien sûr, face à l'urgence climatique,
Dans un instant, Gilles Bernstein et Sarah Durieux vont donner leur opinion, leur sentiment sur ce qui s'est produit, que ce soit à New York et aussi dans l'avion lors du vol présidentiel qui a précédé. Mais 20h10 sur France Info, rappel de l'info avec vous, Jules Dequis.
L'Allemagne va doubler ses dépenses pour lutter contre le réchauffement de la planète. Elle va donner 4 milliards d'euros au fonds européen qui y est dédié. Annonce de la chancelière allemande Angela Merkel au sommet de l'ONU sur le climat, auquel participe également Emmanuel Macron. Elle affirme aussi vouloir en finir avec les centrales à charbon dans les 20 prochaines années. C'est un pas important vers une réponse européenne à la crise migratoire en Méditerranée. La France, l'Allemagne, l'Italie et Malte s'accordent sur un texte qui organise une répartition automatique des migrants. Il doit maintenant être validé par l'Union européenne dans 2 semaines. Marc Vera attaque le guide Michelin en justice. Il veut connaître les raisons exactes de la perte de sa 3e étoile. Après ce déclassement en janvier dernier, le chef au chapeau noir a demandé à ce que son restaurant, la Maison des Bois, en Haute-Savoie, soit retiré du livre. Les gendarmes ont retrouvé les voiturettes électriques de l'hôpital du Mans, celle qui servait à déstresser les enfants malades dans leur trajet jusqu'au bloc opératoire. Elle se trouvait dans une forêt à 20 km de là. Ce vol, il y a 3 semaines, avait suscité une vague d'indignation et d'émotion. Et puis Lorient peut reprendre ce soir les commandes du championnat de Ligue 2 de football. Un match nul ou une victoire à domicile contre Rodez suffirait au Merlu pour repasser devant le Havre.
France Info. Et tout est plus clair.
Voilà, merci à vous, Jules Dequis. C'était mieux avec la petite musique de Jean-Michel Jarre. Je me tourne vers vous, Sarah Durieux. Je vais citer du Emmanuel Macron dans le texte et dans l'avion. Il dit, les défilés de jeunes tous les vendredis, la pression mise sur tout le monde, c'est utile. Mais ces incantations ne suffisent plus. Défiler pour dire que la planète brûle, c'est sympa, mais ce n'est pas le problème. Je continue. Qu'ils aillent manifester en Pologne, comme le rappelait tout à l'heure Julie-Marie Lecomte. Et il ajoute, le président, je préfère que tous les vendredis, on fasse des grandes opérations de ramassage sur le bord des rivières. Commentaire.
Bon, moi, je trouve ça... grave, je pense que c'est les deux. D'abord parce que ces jeunes, ils agissent. Il y a plus de 4 millions de jeunes qui ont fait grève vendredi. Il y a des personnes qui ont fait grève partout dans le pays, mais pas seulement grève, ils font tous les jours des actions. Là, à l'ONU hier, on en a moins parlé, mais il y a 600 jeunes qui sont venus porter justement des solutions qu'ils ont présentées justement au secrétaire général pour proposer des choses très très concrètes. Et puis c'est du Emmanuel Macron classique, c'est-à-dire il dit en gros les mots c'est bien beau, mais il faut agir. Bah, c'est un petit peu ce que lui disent les jeunes. On attend qu'Emmanuel Macron s'engage. Il fait des annonces là au niveau international sur justement le fait d'abonder dans ce fonds vert, mais il y a aussi au niveau national ce qui se passe. Il y a encore 11 milliards d'euros qui sont investis chaque année pour les énergies fossiles. Donc, à un moment donné, il y a aussi un problème de dichotomie. C'est toujours le problème d'Emmanuel Macron sur la question environnementale, entre ce qu'il dit à l'international et ce qu'il fait en France.
Alors, Gilles Bernstein, c'est compliqué les avions parfois, hein ? On se lâche.
Oui, alors j'espère que pour Emmanuel, oui, absolument. Je pense que vous pensez à Lionel Jospin qui s'était lâché.
Qui avait déraillé en plein vol.
Qui avait déraillé en plein vol, traitant, disant que Jacques Chirac était trop vieux, ce qui a certainement lui avait coûté peut-être son élection, enfin, son échec à l'élection présidentielle. On n'en est pas là. J'espère pour Emmanuel Macron que c'est pas une rechute, parce que vous savez, les gardiens de but en Angleterre, ils ont une expression, c'est une clean sheet quand ils prennent pas de but. Ça faisait quand même un certain temps, il faut le dire, que Emmanuel Macron, il ne prenait pas de but. Depuis environ 6 mois, il n'avait pas dit de bêtises. Là, il en a dit une, clairement, parce que, je suis d'accord, en quoi le fait que des jeunes manifestent le dérange? Au contraire, il devrait se féliciter qu'il y ait une prise de conscience écologique, qu'il ne soit pas content que des gilets jaunes viennent casser les vitrines à Paris. C'est normal. Mais en quoi le fait que des jeunes manifestent le dérange? Et puis par ailleurs, sur la Pologne, ce qui m'amuse, c'est qu'il y a un aveu, parce qu'il dit « il ferait mieux de venir m'aider à convaincre ceux que je n'arrive pas à aider ». On voit que, parce qu'au début du quinquennat, oui, par la magie de son verbe, il allait faire renoncer Trump à sortir de l'accord de Paris, comme il parlait bien, il allait réussir tout. Et là, il avoue même dans cette petite phrase que même la Pologne, plus petit pays que la France, eh bien, tout Macron qu'il est, il n'arrive pas à les convaincre.
Oui, parce que la Pologne, je rappelle, c'est l'un des pays qui ont bloqué la proposition européenne de fixer en 2050 la date butoir pour atteindre la neutralité carbone. Sur ces mots présidentiels en vol, en l'air, Henri Vernet, ça vous fait sourire, j'ai l'impression.
Oui, nous on avait une journaliste, Vadim Chidi, qui était dans l'avion, donc avec un de vos collègues, qui a relevé ça. Mais attendez, moi je suis toujours frappé par... On se plaint des hommes politiques qui ont la langue de bois. Dès qu'un homme politique parle un peu cash, il a 10 000 mètres, il se lâche un petit peu. Ce qu'il dit aussi, c'est qu'il est content d'avoir cette pression des jeunes. Je suis d'accord, ces jeunes, c'est extrêmement efficace qu'ils soient là, qu'ils aient cette conscience, qu'ils agissent. Si, à un moment, il a dit la pression que mettent les jeunes m'aide. De la même manière, d'ailleurs, puisque vous parlez des gilets jaunes, qu'il a dit que les gilets jaunes, quelque part, lui avaient servi. Aidé, ouais. Et donc, mais après tout, dire que, bah oui, qu'on peut aussi faire d'autres choses, mais pourquoi pas, les jeunes font beaucoup de choses. Mais enfin, je trouve qu'il y a un côté pavlovien. Dès que Macron dit quelque chose, c'est nul, c'est le mépris, etc.
Non, mais
excusez-moi, Gilles, mais qu'un chef d'État nomme le problème, nomme l'un des problèmes. La France, très souvent, est un problème. Bien sûr qu'elle remplit pas ses objectifs. Ça, on va pas tresser des lauriers qu'il ne mériterait pas. C'est très évident, on doit faire des progrès. Mais que, dans ce cas d'espèce précis, qu'il nomme l'un des problèmes en Europe, je trouve
ça
plutôt bien.
C'est pas là-dessus
je suis en effet que la Pologne puisse se
alliés.
Remuer.
Là, c'est... En non, l'occurrence, les jeunes. La Pologne, je suis d'accord avec vous. Mais les jeunes sont ses alliés. Moi non plus, ça me choque pas.
Mais il le dit, ce sont ses alliés.
C'est contre-productif.
Mais c'est une façon de parler.
C'est contre-productif.
Tout la moindre brindille fait incendie. Et cet incendie sera oublié, on sera passé à autre chose dans deux heures.
Alors justement, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron dans le texte et à la tribune de l'ONU cette fois.
L'Europe doit faire plus. Et donc, dès 2020, l'Europe doit prendre des décisions très claires pour pouvoir exaucer les vœux de la nouvelle présidente, Ursula von der Leyen, d'aller vers des réductions accrues de nos émissions à horizon 2030. La France prendra ses responsabilités. Nous avons d'ores et déjà arrêté toute nouvelle exploration d'hydrocarbures sur le sol français et les dernières centrales à charbon auront fermé leurs portes avant 2022. Donc je compte chacun sur vous. Des actes, des actes, des actes. On ne peut pas laisser notre jeunesse passer tous ces vendredis à manifester. On ne peut pas voir notre jeunesse dans l'état de souffrance, parfois d'émotion qu'on a vu tout à l'heure, et simplement dire on fait tout bien. On est encore loin du compte, mais continuons à agir ensemble.
L'émotion en question, celle de Greta Thunberg, Gapset aussi, des actes, dit le président, injonction présidentielle. Oui. Oh, c'est peut-être plus compliqué que ça.
Non, mais c'est pour ça que j'en veux. Je vous en veux un petit peu, mais un tout petit peu. Oui, tout à fait, parce que quand
soyez
on.
À l'aise.
Non, mais sur l'action notamment de Greta, tant qu'on qualifiera la parole de ces jeunes de numéros, ou qu'on dira qu'ils dramatisent une situation, ils parlent avec leur cœur d'enfant, ils parlent avec leur jeunesse, ils parlent avec leur regard d'enfant sur le monde, et ils parlent avec, en tenant responsable effectivement leurs aînés. Et je considère qu'effectivement les mots ont un sens, et que quand Greta Thunberg s'exprime, nous n'avons pas le droit de qualifier ce qu'elle fait de on a tous le droit, et nous sommes tous libres de dire ce que nous souhaitons, évidemment. Mais
ça vous indigne?
Oui, ça m'indigne, parce que je trouve qu'on décrédibilise la parole de ces jeunes qui osent prendre la parole.
Je crois pas. C'est mon point de vue. D'ailleurs, oui, c'est votre point de vue, justement. Vous avez raison, on peut totalement débattre. D'abord, j'ai bien dit numéro, je ne voulais pas employer ça de manière péjorative. Bon, ça l'est toujours un peu, peut-être. Ce que je veux dire, c'est que, mais et ça c'est très très bien, que l'arène des Nations Unies, c'est justement une arène, c'est théâtral, on est là pour faire le théâtre. Rappelez-vous Villepin, qui connaissait Villepin avant qu'il fasse son numéro sur la guerre en Irak en 2003? Il est devenu célèbre grâce à cela. Je veux dire que de la même manière que l'hémicycle, l'Assemblée nationale parfois, et notre arène à nous, ce sont des endroits où il faut dramatiser, il faut porter cette parole. C'est en cela que j'emploie le mot de numéro. Mais j'ai bien dit que moi, au contraire, je trouve le constat qu'elle fait, je le partage entièrement. Oui. Moi aussi, j'ai des jeunes à la maison, j'ai des enfants, etc. Et ils nous aiguillonnent, nous, leurs aînés, pour, en effet, pour avoir cette prise de conscience écologique, alors, environnementale, que je trouve assez réelle.
Sarah Durieux.
Je suis d'accord avec ce que vous dites. Il y avait justement une tribu de Najat Vallaud-Belkacem entre l'importance pour la politique de mélanger la raison et l'émotion, qu'il fallait prendre les deux en compte. Mais juste sur ce que Emmanuel Macron dit là dans cette prise de parole, qui elle aussi pour moi c'est un joli numéro, où il explique qu'il faut des actes, on vient quand même de ratifier CETA, qui est quand même qui est dénoncé par toutes les associations environnementales comme un vrai risque et comme un vrai
traité
problème
de libre-échange avec le Canada.
Exactement, je rappelle que en fait Emmanuel Macron avait dit qu'il ne signerait plus d'accords commerciaux avec des pays qui ne se sont pas engagés sur l'accord de
vous
Paris.
Vous voulez dire que les actes en question sont contradictoires?
Mais
selon
c'est
vous
complètement contradictoire entre ce qu'il dit et ce qu'il
mais
fait.
Mais le Canada les a dénoncés,
Gilles Bernstein.
Mais le Canada n'est pas en accord avec les accords de Paris, non, il n'est pas en accord. Donc c'est ça la problématique, c'est qu'on arrive sur des déclarations comme ça, on ratifie le CETA et le Mercosur, c'était encore dans les tuyaux il y a très peu de temps. Donc voilà, on se pose quand même des questions du coup, maintenant qu'il y a eu ce qui s'est passé en Amazonie, j'ai envie de dire c'est très triste qu'il ait fallu qu'il y ait tous ces incendies pour qu'on décide de repousser.
Sincèrement, je crois qu'il y a une telle opposition des agriculteurs en France que de toute façon, Amazonie ou pas, il n'est pas prêt.
Ça faisait quand même partie de ce qui était dans les tuyaux. Donc ça, c'est une chose. La dernière chose que je voulais dire par rapport à la mobilisation des jeunes, il faut savoir qu'il y a un mouvement de fond qui a été lancé depuis quasiment un an maintenant. C'est que partout dans le monde, il y a des jeunes qui demandent à ce que soit votée l'urgence climatique, que ce soit dans leur ville, dans leur région ou même au niveau de leurs États. Et ils y arrivent, ils sont plus d'un million, il y a plus d'un million de personnes qui ont signé ces pétitions d'ailleurs sur Change pour avoir ces engagements-là, et ils ont réussi. Donc c'est pas simplement défiler pour faire de l'émotion, c'est concrètement, il y a des actes politiques qui sont accomplis grâce à la mobilisation de ces jeunes.
On va parler dans un instant de ce que Greta Thunberg et 15 autres jeunes intentent en matière juridique pour leurs 20h et 20 minutes sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules Dekis.
Officiellement, les États-Unis ne participent pas au sommet de l'ONU sur le climat, mais Donald Trump s'est tout de même invité à New York tout à l'heure. Il s'est assis et a écouté quelques minutes les débats avant de quitter les lieux. Autre apparition remarquée, celle de la jeune militante suédoise Greta Thunberg. Des écosystèmes entiers s'effondrent et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent et de croissance économique éternelle, a-t-elle lancé aux dirigeants du monde. Le défi logistique est immense pour Thomas Cook, rapatrier 600 000 clients bloqués à l'étranger à cause de la faillite du tour opérateur. Plus de 10 000 Français sont concernés, notamment en Tunisie et en Turquie. Un numéro d'urgence est mis en place et le voyagiste préconise à ceux qui devraient partir ces prochains jours de renoncer. C'est à cause de la puissance financière et juridique des laboratoires que le combat est si long, explique Gérard Bapt sur France Info. C'est l'ancien président de la commission parlementaire sur le Mediator. Le procès vient de s'ouvrir et va durer plus de 6 mois. Les laboratoires Servier, comme l'agence du médicament, doivent expliquer pourquoi cet antidiabétique est resté si longtemps en circulation jusqu'en 2009. Il a fait des centaines de morts, peut-être des milliers d'après les expertises. Carlos Ghosn accepte de payer 1 million d'euros d'amende à la justice américaine pour éviter des poursuites. Le gendarme de la bourse aux États-Unis l'accuse d'avoir dissimulé 140 millions de dollars de revenus. Et puis à 10 mois des JO de Tokyo, l'agence mondiale antidopage prolonge la suspension des athlètes russes de toute compétition. D'après elle, les données fournies par la Russie, mise en cause pour un dopage d'État depuis 2015, présentent des incohérences.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquilin.
Des actes, a dit Emmanuel Macron. Les leaders politiques mondiaux en font-ils assez? Tiens, d'ailleurs, Donald Trump a fait une courte apparition et puis s'en va à ce sommet climatique de l'ONU. Écoutez ce que disait ce matin Yannick Jadot, l'eurodéputé, leader d'écologie Les Verts, aux 4 vérités sur France 2.
On a la France et l'Europe qui ne sont même pas sur la trajectoire donnée par les scientifiques. On doit massivement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais en plus, là où il y a une sorte d'opportunité extraordinaire pour notre pays et pour l'Europe. C'est que lutter contre le dérèglement climatique, c'est pas simplement éviter le chaos. C'est refaire société, c'est se donner un projet partagé. Et là où la France est en retard, ce sont les préoccupations des Français.
On va y venir
la France est en retard sur les transports et sur l'isolation des logements.
Alors voilà donc des choses très concrètes émises par Monsieur Jadot ce matin. Sarah Durieux, est-ce que vous avez la sensation que, quelque part, le compte y est en matière de lutte contre le dérèglement climatique ? Là, il était question notamment des passoires thermiques et des transports urbains, grosso modo. Mais est-ce que ce sont des mesurettes, comme le dit tout à l'heure Absatoussi ?
Je pense que, en fait, il y a mesurettes qui sont annoncées et il y a la véritable nécessité d'avoir, on entend beaucoup ça aux États-Unis maintenant, le Green New Deal. Et il a raison dans ce qu'il dit Yannick Jadot, il y a une opportunité
le Green...
de... New Deal, Green New Deal, oui. Comme on a fait pour reconstruire les États-Unis, bah on peut le
pour
pouvoir relancer notre économie. On a un vrai problème aujourd'hui de précarité. On a besoin de créer des emplois. On a besoin de relancer une économie. Et en plus, on a cette opportunité où il y a une transition à faire qui est vraiment à adresser de cette manière-là. Donc en effet, il y a des. Je pense que la question de la rénovation thermique, la question des transports, sont pas des mesurettes en ce sens qu'elles peuvent justement de créer ce Green New Deal dont je parlais à l'instant. Et surtout, en fait, ça a un impact très concret sur la vie des gens. Ça a un impact, on parlait de précarité, les mouvements des Gilets jaunes ont bien montré ça. Ça résout aussi les questions du prix de l'énergie, comment on peut baisser ce prix de l'énergie, avec notamment la production d'énergie renouvelable, qui aujourd'hui sont 80% moins chères que la production d'autres... d'électricité par d'autres moyens.
Oui, Gilles Bernstein.
Mais il faut la payer, cette rénovation thermique. Alors, je suis d'accord avec vous, la rénovation thermique, ça crée des emplois non délocalisables, ça peut donner du boulot à beaucoup de gens, et c'est sûr que ça serait...
Et en termes d'économie d'énergie, c'est quand même fondamental. Hein.
Et en termes d'économie d'énergie, c'est absolument fondamental. Ouais. Mais soit on le subventionne, c'est-à-dire soit c'est fait sur fonds d'État, et je suis pas persuadé qu'on en ait les moyens, soit il faut subventionner les ménages qui le font, et là non plus on n'en a pas les moyens, puisque vous dites c'est qu'effectivement cet aspect-là de la transition écologique, c'est du business, c'est du New Deal, mais on a vu la taxe carbone, celle-là elle s'oppose plutôt, et celle-là c'est tout justement aussi efficace, et ça s'oppose plutôt aux besoins et aux ressources des classes populaires.
Mais il faut investir, c'est ça qui s'est passé. Vous savez, si on est si bon dans le nucléaire, c'est parce que pendant 30 ans on a investi massivement dans le nucléaire, donc on peut certes investir. Alors, il faut se mettre d'accord sur le fait que oui, on est prêt à mettre de l'argent peut-être à s'endetter un petit peu plus, mais pour vraiment une transition qui soit importante.
Est-ce que le compte y est ? Apparemment non, aux yeux de Greta Thunberg, je vous le disais à l'instant, et 15 autres jeunes qui intentent une action juridique contre 5 pays, dont la France. Cette plainte inédite, nous révèle franceinfo.fr, déposée avec l'aide du cabinet international d'avocats Hausfeld et la bénédiction de l'UNICEF, eh bien, vise 5 États pollueurs, l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil, la Turquie, et la France, Henri Vernet, apparemment, aux yeux de certains défenseurs de l'environnement, nous sommes en deçà de ce qui devrait être fait pour être dans les clous, hein.
Oui, mais bon, quand on prend les bilans carbone, on le voit qu'en effet, on va pas assez vite, on n'est pas assez sur la trajectoire. Maintenant, focaliser en permanence sur l'Europe et la France, honnêtement, je trouve ça un petit peu étonnant parce que ça fait partie des régions du monde qui, justement, sont quand même les plus, je veux dire, dans les clous sur ce terrain-là. En tout cas, où l'objectif est clairement fixé, où les efforts sont faits, où il y a un contrôle. Alors, et puis, par ailleurs, moi, cette histoire maintenant, il y a une espèce de judiciarisation de la politique environnementale. Il y a quelques jours, on a vu ces décrocheurs qui ont été en quelque sorte, enfin, on leur a donné quitus de leur action parce qu'ils décrochaient pour dénoncer l'inaction, disent-ils, de notre gouvernement contre le climat. On est, les Néerlandais, la justice néerlandaise a condamné, donc, son pays pour en faire plus parce qu'il n'en fait pas assez sur ce terrain-là. Donc, il y a cette idée, alors, on pointe du doigt, c'est très bien sûr qu'il faut en faire plus, bien sûr qu'il faut multiplier les mesurettes, qu'il faut accélérer. On est tous d'accord. Mais, il faut aussi être un petit peu cohérent, c'est-à-dire que les endroits, les zones où il faut le plus porter l'effort, bah, c'est pas spécialement l'Europe, me semble-t-il, ni la France. Encore une fois, on a parlé du Brésil, on peut parler des États-Unis. Ah, oui. En tout cas, au niveau fédéral, il faut parler de la Chine, absolument, il faut parler de l'Inde, il faut parler de ces grands ensembles. Non, mais qui sont
On ne peut pas se renvoyer la balle. C'est-à-dire que si nous, on n'est pas irréprochable, on ne peut pas ensuite demander à des pays qui sont aussi des pays en voie de développement, qui n'ont pas les mêmes moyens d'investissement que nous avons, parce que c'est quand même aussi la question. On ne peut pas demander à ces pays qui ont moins de moyens que nous de faire mieux que nous. Justement, on doit se présenter comme leader. comme l'exemple. Donc même si vous dites on est les moins, on est les meilleurs, on est les moins mauvais.
On est les moins mauvais. J'ai pas dit
c'est,
on est les meilleurs.
C'est quand même différent. Donc c'est à nous. C'est comme avec le cas de la Pologne. C'est à nous de montrer qu'on est leader, d'investir et justement de pouvoir un peu amener tout le monde vers le haut plutôt que de pointer du doigt ceux qui font moins bien que nous.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce lever de rideau parce que ça va durer hein, de ce sommet sur le climat à l'ONU à New York. Juste une petite précision, les mots de Donald Trump rapportés par l'agence France Presse, il est resté quelques minutes, il a applaudi, il est parti, il a dit en sortant, le président américain, je crois beaucoup à l'air pur et à l'eau pure, et tous les pays devraient se mettre ensemble pour y parvenir, c'est très très important, voilà, avec ça,
wow,
ça va faire avancer le débat. Allez, on se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite, désinformé France Info, nous évoquerons le procès du Mediator et le débat à venir autour de la PMA, à tout de suite.
Le bus des municipales, station Grenoble. À 6 mois des élections, Grenoble, première étape de notre Tour de France. Vendredi entre midi et 14h, Frédéric Carbone est dans les transports avec vous.
Ensemble, on va parler de vos préoccupations et des enjeux du scrutin. Quel bilan pour la première grande ville dirigée par les écologistes? La pollution, la circulation, la vie dans les quartiers? On se pose et on vous écoute.
2 heures de direct, d'échanges, de témoignages. Le bus des municipales, station Grenoble, en partenariat avec le Dauphiné Libéré, vendredi dès midi sur France Info.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gammes respectueuses de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr.
Et les prévisions signées Elodie Calac pour Météo
France.
Une
journée bien maussade demain. La perturbation arrivée par le nord-ouest traversera le pays. Demain, elle s'étendra de la Normandie et du nord de la Seine vers Poitou-Charentes, le centre, la Bourgogne, l'Aquitaine et le Massif central avec de bonnes pluies et du vent. Ce temps se décalera vers le sud et l'est l'après-midi. Les pluies faibliront. Alors que sur un grand quart nord-ouest, jusqu'au Hauts-de-France, à la région parisienne, au centre et au nord de la Nouvelle-Aquitaine, ça s'éclaircira. On ne sera pas à l'abri d'une petite averse de temps en temps. Le vent restera soutenu jusqu'à 50 à 70 km à l'heure. Et puis le sud-est restera à l'écart. Il gardera un temps bien ensoleillé toute la journée avec un vent d'ouest sensible. L'ambiance sera automnale, souvent 7 à 15 degrés le matin. L'après-midi, 16 degrés à Langres, 18 à Brest, à Lille, 20 degrés à Strasbourg, 21 degrés à Paris, Nantes, Nevers, 22 à Lyon et à Agen, 25 à Marseille et jusqu'à 27 à Perpignan.
Et 30 minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Ferrandi.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Assis sur leurs valises, des touristes britanniques ont passé de longues heures à faire la queue au guichet Thomas Cook de l'aéroport de Palma de Mallorca aujourd'hui. Objectif, rentrer à la maison sans avoir à payer un nouveau billet d'avion. Après la faillite du voyagiste britannique, le pionnier du tourisme de masse. 180 ans d'existence et puis plus rien, trop de dettes, trop d'erreurs de stratégie. Près de 600 000 touristes seraient impactés aujourd'hui, dont 10 800 Français. Mais Jean-François Rial, le vice-président du syndicat des tours opérateurs, se veut rassurant.
On a une caisse de solidarité, une association professionnelle qui permet de garantir à tous nos clients qui partent par une agence de voyage d'être pris en charge lorsqu'il y a une défaillance de ce type. Ce n'est pas un rapatriement, hein. On n'est pas dans un scénario catastrophe avec un tsunami ou une épidémie. Tout simplement, on a des gens qui voyagent, qui vont finir leurs vacances. Et si les vols qu'ils ont en main ne sont pas disponibles, eh bien on les fera rentrer. Ce n'est pas très long parce que la plupart des gens qui partent en voyage, qui le sont en ce moment, le font pour des durées de 3 semaines maximum et la plupart du temps plutôt 1 semaine, voire 2. Donc je dirais que fin septembre, tout le monde sera rentré sans trop de problèmes.
Pour sa part, la compagnie française XL Airways a été placée en redressement judiciaire aujourd'hui. Les offres de reprise peuvent être déposées d'ici samedi midi. On a 5 jours pour faire un miracle, a déclaré le PDG qui avait appelé Air France et le gouvernement à l'aide financière ce week-end. Et puis, la justice a examiné aujourd'hui également les 4 offres de reprise d'une autre compagnie française, Eglazur, la deuxième compagnie de France qui emploie 1 millier de salariés. L'audience continuera demain. Le laboratoire Servier savait-il que le Mediator était dangereux? A-t-il maintenu le coupe-faim sur le marché français en toute connaissance de cause? C'est au tribunal de Paris de le déterminer désormais, 10 ans après le retrait du médicament. 2700 patients se sont portés partie civile. Au terme de leur enquête, les juges d'instruction avaient conclu que Servier était conscient des risques depuis 1995, ce que le groupe pharmaceutique dément aujourd'hui. Le procès va durer 7 mois. La France a l'ambition de faire baisser la tension entre l'Iran et les États-Unis. Emmanuel Macron annonce des rencontres bilatérales avec d'une part Donald Trump et d'autre part Hassan Rouhani. Rencontres qui auront lieu ce soir et demain en marge du sommet pour le climat qui s'est ouvert aujourd'hui à New York. Benjamin Netanyahou et Benny Gantz face à face en ce moment dans le bureau du chef de l'État israélien. Le président Rivlin souhaite un gouvernement composé de deux partis rivaux que sont le Likoud, parti de droite au pouvoir jusqu'à présent, et les centristes. Chacun a obtenu un quart des sièges au Parlement lors des dernières législatives de mardi. Aucun des deux n'est donc capable de gouverner seul. Les discussions sont retransmises à la télévision. Elles sont filmées comme toutes les consultations menées depuis hier par le chef de l'État hébreu. Au Maroc, la révolte des femmes contre les lois jugées obsolètes. Elles sont une centaine à se déclarer hors la loi aujourd'hui et a signé un manifeste dans la presse pour dénoncer un règlement qui punit de prison les relations sexuelles hors mariage et les avortements. Et puis un tableau du grand peintre italien Cimabue est découvert dans une maison de Compiègne, tableau du XIIIe siècle. Il sera mis en vente fin octobre.
20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec Apsa Toussi, entrepreneuse, animatrice, chroniqueuse dans les médias, avec Sarah Durieux, directrice de Change.org France, avec Gilles Bernstein, éditorialiste politique à France Info, et Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien, aujourd'hui en France. Procès fleuve, il a débuté aujourd'hui, celui du médiateur. 6 mois d'audience, près de 5000 victimes, 2684 partie civile, 25 prévenus, 14 personnes physiques, les laboratoires Servier et l'ex-APSAF, APSAF, c'est l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle est devenue, vous le savez, depuis l'Agence nationale de sécurité du médicament, et un flot de témoignages de victimes qui exigent réparation et justice, à l'image de Pierrette Brunel, un document France Télévisions.
Nous sommes des victimes, mais c'est à nous à faire les démarches. Si à nous, à payer les surplus, parce que je suis partie à Bordeaux par rapport à un expert, je veux dire que tout ça, c'est à nos frais. Nous sommes des victimes. Donc on est victimes et on est punis. À la limite, moi je me sens punie par rapport à Servier, qui ne veut pas reconnaître ses torts.
Sarah Durieux, c'est un procès, on va dire, fleuve et aussi un océan de souffrance.
Oui, c'est absolument terrible. C'est 2000 personnes qui sont mortes ou qui vont mourir à cause de l'utilisation de ce médicament, qui d'abord a été vendu soi-disant comme étant un antidiabétique alors que c'était un coupe-faim pour pouvoir être remboursé. Donc il y a déjà une arnaque qui est assez incroyable. Mais surtout, c'est 3700... Oui, enfin, je veux dire, concrètement, il y a la partie arnaque et après, il y a la partie scandale sanitaire. L'arnaque, c'est d'avoir fait passer ça pour un antidiabétique alors que c'était un coupe-faim. La partie sanitaire, c'est 3700 personnes qui ont été gravement touchées. C'est assez massif et surtout, c'est après l'affaire du sang contaminé, c'est, j'espère, la première fois que ces personnes vont pouvoir obtenir finalement gain de cause et que les responsables soient condamnés. Il faut savoir que pour moi, c'est le scandale à la fois de l'agence de sécurité du médicament qui a laissé passer les choses, mais c'est aussi ce laboratoire sans scrupules qui a vendu ce médicament pendant des années sans qu'il y ait entrave. Et ça, c'est très grave. Et pour moi, ça dit beaucoup de cette espèce de connivence entre les autorités de santé et le laboratoire pharmaceutique.
Henri Vernet, vous avez titré aux Parisiens aujourd'hui en France « hors norme ». C'est une expression qu'on a entendue ce matin en boucle sur toutes les radios et télé, parce que c'est le cas au fond.
Oui, bah c'est le cas par les chiffres que vous avez énumérés, oui. Hein, le nombre de plaignants 10 ans après, etc. Mais moi, je trouve que c'est surtout hors norme, comme l'a illustré cette victime, cette dame qu'on vient d'entendre. C'est hors norme par l'espèce d'arrogance, l'espèce de mépris, l'espèce de déni dans lequel s'est enferré cette firme, ce laboratoire, pendant des années, c'est-à-dire, en infligeant une double peine à toutes ces victimes, c'est-à-dire en les ignorant, en jouant de toutes les arguties juridiques possibles pour délayer les responsabilités, pour les dénier, pour retarder les choses. Bref, c'est ça, c'est le procès d'une inhumanité au quotidien qui est assez terrible et en effet, comme vous le disiez, qui est renforcée en quelque sorte par l'espèce d'aveuglement ou la passivité de l'État, quoi, des autorités sanitaires. Et ça, alors malheureusement, c'est quelque chose chose, cette complicité parfois, hein, qui va être d'ailleurs en tout cas examinée, jugée au tribunal, c'est quand même quelque chose qui doit changer en France, qui est très typique de l'endogamie dans lequel on vit, hein, vous savez, dans nos technostructures, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a, on a quand même les mêmes intérêts, les mêmes genres, les mêmes formations, etc. Et donc ça facilite cette façon de fermer les yeux pendant trop longtemps sur, parce que encore une fois, il y a le rôle d'Irène Frachon, enfin tout cela, l'avertisseur était mis en alerte depuis longtemps.
Puisque vous citez Irène Frachon, hein, cette pneumologue de Brest qui s'est battue pour faire retirer ce médicament du système, écoutez ce qu'elle disait, elle était ce matin l'invitée de France Info.
Ce qui est la force d'un procès pénal, c'est que cette fois-ci, on n'est plus seul face à des menteurs, mais il y a des documents, une instruction extrêmement solide. Le drame continue, ce procès malheureusement n'arrêtera rien du massacre du Mediator, mais par contre, la justice pénale doit se prononcer sur des délits extrêmement lourds, car ces gens ont eu le choc d'apprendre qu'ils avaient été sciemment empoisonnés.
Alors il faut rappeler, c'est très important, qu'il y aura quand même 6 mois d'audience, 6 mois de procès, et que tout est de savoir, l'important est de savoir s'il y a eu intention de la part des laboratoires en question et du système, ou si c'est le procès d'un système qui au fond ne fonctionnait pas et n'arrivait pas finalement à retirer un médicament qui était lancé sur le marché depuis 1970. Absat aussi, les mots d'Irène Frachon sont quand même terribles, massacre.
Ils sont terribles, mais je pense qu'ils sont justes et ce que vous venez de dire est important, ça veut dire que le médicament, il est mis sur le marché en 70. On a quand même, en 76, déjà un pays voisin, la Belgique, qui le retire. Je veux dire, c'est 20 ans avant, 23 ans avant que la France ne décide de le retirer. Entre-temps, on a la Suisse, on a l'Espagne qui décide de le retirer. Je ne peux pas entendre ni croire qu'on n'ait pas eu à un moment conscience ou en tout cas une alerte sur le fait que ça puisse être effectivement dangereux. Donc on a laissé faire. On a laissé faire. Pourquoi ? On a des laboratoires qui sont énormes en face. On a aussi des victimes. Il y avait des morts qui commençaient à s'empiler et c'est on a laissé faire pendant toutes ces années. Moi, je suis quand même assez sidérée de voir qu'il y a, pourtant, on est en France avec une mise en place comme ça de services qui passent leur temps à contrôler les entreprises. Moi, je suis dans le domaine des cosmétiques, je sais de quoi je parle. Pour beaucoup moins que ça, tout de suite, on a des gangs qui débarquent. Donc, à un moment, je suis quand même très surprise de voir qu'il n'y a pas eu de réaction.
Scandale épouvantable, tout le monde est d'accord qu'il y aura eu au moins un intérêt. Sarah, tout à l'heure, a parlé de la connivence entre les labos et les autorités. Ça, manifestement, c'est terminé parce que depuis, il y a eu la loi Bertrand qui impose à tous les collaborateurs des autorités de santé de faire des déclarations de conflits d'intérêts, de toute leur collaboration extrêmement poussée, de sorte que maintenant, c'est un peu l'inverse. Les autorités de santé ont du mal à faire travailler des experts parce qu'on sait que le système de santé universitaire est tel en France que beaucoup d'experts se font financer par un labo ou par un autre et que rares sont ceux qui n'ont jamais travaillé pour les uns ou pour les autres. Manifestement, cet aspect de connivence est désormais, Dieu merci, terminé.
Quelle sera la ligne de défense durant ces 6 mois des laboratoires Servier? On écoutera l'un des défenseurs dans un instant, mais pour l'heure, il est 20h40 sur France Info, le rappel de l'info, Jules de Kiss.
L'info sur vos assistants.
XL Airways est placé en redressement judiciaire et le tribunal de Bobigny note jusqu'à samedi aux éventuels repreneurs pour déposer une offre. La troisième compagnie française a besoin de 35 millions d'euros d'argent frais d'après son PDG. Le destin des glazures se joue aussi en ce moment. Le tribunal de commerce d'Evry a commencé aujourd'hui à examiner les offres de reprise. Il reprendra les auditions demain. Deux dossiers sont jugés solides d'après le comité d'entreprise. Alors que le sommet de l'ONU sur le climat s'est ouvert, le pape François s'invite dans le débat et distribue ses mauvais points. D'après lui, les engagements pris depuis l'accord de Paris en 2015 sont encore très vagues et loin d'atteindre les objectifs. C'est justement pour sauver cet accord que les États se réunissent à New York. L'eau n'est plus potable dans une partie des bâtiments de la Sorbonne Nouvelle à Paris. Elle est contaminée au plomb. La direction de l'établissement demande des investigations pour déterminer l'origine de cette pollution. Des émeutes raciales en Indonésie, les Papous manifestent après des crimes qui ont visé leur communauté. Un mouvement étudiant violent est réprimé par les autorités. Une vingtaine de personnes ont été tuées et des dizaines d'autres sont blessées. Les experts parlent d'une découverte exceptionnelle. Un petit tableau du peintre primitif italien Cenni di Pepo di Cimabue a été retrouvé dans une maison de Compiègne au nord de Paris. Cette peinture du Christ daterait de 1280. Les œuvres de ce peintre sont extrêmement rares, d'où sa valeur pour l'histoire de l'art. Et cette œuvre est estimée entre 4 et 6 millions d'euros.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés.
Jean-François Aquili.
Voilà, à l'instant, Absatoussi évoquait des gangs, hein, des équipes de contrôle. Vous voulez dire équipes de contrôle,
c'est le mot. Des groupes de contrôle.
Voilà, le mot vous avez échappé, vous teniez à le rectifier. Vous avez raison, c'est bien de le faire. Que va plaider donc Servier écoutez, Maître Jacques-Antoine Robert, il est l'un des avocats des laboratoires.
Le temps du procès, c'est aussi le temps du message, et d'un message qui se doit absolument d'être une forme d'excuse, de regret. Il y a des erreurs qui ont été commises, des erreurs à mon avis partagées avec l'Agence du médicament, qui sera jugée aux côtés du laboratoire, et le laboratoire a bien entendu lancé une indemnisation des victimes, ce qui est insuffisant, c'est même le minimum que l'on devait aux victimes. Mais maintenant, c'est le temps des explications, et c'est là-dessus évidemment que nous attendent beaucoup de patients, et nous allons essayer d'être le plus clair possible, pour les juges, mais aussi pour les patients qui se posent beaucoup de questions sur ce dossier.
Des regrets, Henri Vernet, c'est sans doute en écho hein, de ce que fut l'attitude de son vivant, parce qu'il faut le rappeler, il n'est plus de ce monde, de Jacques Servier, et cette déclaration lors de ses vœux au personnel, nous sommes en 2011, il dit « Le médiateur, ce n'est que trois morts ». Je crois que cette phrase aura marqué les esprits dans cette
affaire. Oui, bien sûr, c'est pour ça que là, entendre l'avocat, bon, c'est gentil, je veux dire, il est dans son rôle, mais enfin, tout ça n'est pas crédible, ça coûte pas cher de venir s'excuser, de venir faire un grand numéro, pour le coup, à la barre, dans ce théâtre que sera ce long procès. Je veux dire, c'est pas audible après ces 10 ans, encore une fois, de déni de la part de Servier. Donc non, c'est trop facile de venir dire « Attendez, je m'excuse ». Bon, en plus, c'est vrai que le principal concerné est maintenant disparu.
Il est le grand absent de ce procès.
Bah, bien sûr.
Éminemment.
Et tout a montré, dans ces dernières années, que les regrets, c'était loin de ses pensées, et les remords encore plus.
Alors, tout à l'heure, nous évoquions le système à l'époque du médicament et les liens éventuels hein, avec les laboratoires. Voici les arguments. C'était sur France Info du professeur émérite de diabétologie au CHU de la Pitié-Salpêtrière, André Grimaldi. Il nous a expliqué quels étaient, à son sens, les liens en question.
Une condamnation du laboratoire Servier qui a eu un comportement, pour dire les choses très clairement, mafieuse. C'est un laboratoire français. C'est des liens à tous les niveaux. Au niveau des agences, mais au niveau des ministères, avec un ancien ministre qui a été employé, avec donc et on disait c'est de l'emploi. Les prix des médicaments de Servier étaient toujours un peu plus chers que les autres, parce qu'on défend l'industrie française. Ils étaient à l'Académie de médecine, l'Académie de pharmacie, hein, donc il y avait effectivement tout un lobby, un réseau qui faisait que on fermait les yeux, on acceptait.
Voilà donc le professeur André Grimaldi, Sarah Durieux, le système a évolué depuis l'affaire Mediator.
Oui, alors je donnais juste un exemple pour un peu remettre en question ce que vous disiez éventuellement. Il y a une ex-sénatrice UMP qui s'appelle Marie-Thérèse Hermange, qui est la seule à comparaître d'ailleurs dans le cadre de l'affaire Mediator, sur le fait qu'elle ait en fait changé son rapport sur le médicament sous pression a priori sous pression ou en accord avec les laboratoires Servier. Cette personne aujourd'hui, elle est encore au comité de l'éthique de l'Académie de médecine depuis 2017 pardon. Donc on peut se poser la question, est-ce que ça a vraiment changé? Je ne sais pas si ça a vraiment changé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin des lanceurs d'alerte, comme Irène Frachon, qui a été vraiment au cœur de tout ça. Et juste pour prendre l'exemple de ce que je vois tous les jours sur la plateforme, on a sur Change.org des pétitions qui sont lancées par des gens qui sont de véritables lanceurs d'alerte sur les questions de santé. Si vous connaissez le médicament Distilbène, c'est un médicament qui a été donné à plus de 200 000 femmes pendant plus de 20 ans pour éviter les fausses couches, ce qui n'avait pas vraiment d'effet. Par contre, il y a 80 000 filles qui sont les filles de ces personnes qui ont pris ce médicament, qui aujourd'hui ont des graves troubles. Et les familles se battent, Isabelle Granger, elle s'appelle comme ça, se battent pour être indemnisées pour des vies qui ont été brisées. Donc le système, il existe toujours. Il y a d'autres scandales qu'on va découvrir. Et il faut vraiment avancer là-dessus parce que c'est des drames personnels, familiaux et de société.
En tous les cas, toutes ces questions restent éminemment posées. Il y aura éventuellement 6 mois de procès Mediator pour tenter d'y répondre. Allez, nous allons refermer ces informés sur la PMA étendue à toutes les femmes dans le cadre de cette loi bioéthique. Elle arrive demain en hémicycle, elle sera examinée à l'Assemblée nationale. Donc, un débat autour d'une question très sensible. On se demande aujourd'hui si ce débat aura vraiment lieu. Guillaume Chiche, député de La République En Marche des Deux-Sèvres, co-responsable du texte, était l'invité du 1850 France Info.
Quelle est la question qui va nous être posée et qu'est-ce que l'on propose? C'est de faire quelque chose de très simple, qui est de donner les mêmes droits à toutes les femmes. Vous le savez, les femmes en couple hétérosexuel aujourd'hui, elles peuvent recourir à la PMA. D'autres femmes en couple lesbien ou femmes célibataires n'y ont pas le droit. Et donc, dans les mêmes conditions, nous voulons leur donner accès. Ces femmes qui ont un désir d'enfant, elles souffrent tellement qu'elles se rendent à l'étranger pour recourir à la PMA. Et elles se surendettent parce que ça coûte cher d'aller en Espagne recourir à une PMA. Elles prennent des risques médicaux pour elles et leur future progéniture.
Autant le faire chez soi.
Et donc, il faut, au nom de l'intérêt de l'enfant, apporter toutes les garanties et toutes les sécurités.
Voilà, donc Guillaume Chiche, tout à l'heure sur France Info, Absatoussi, est-ce que vous avez la sensation que cette loi est déjà, enfin du moins ce texte, cette partie de la loi est déjà votée par avance? Il y aura un vrai débat de fond sociétal autour de la PMA étendue à toutes les femmes?
En tout cas, j'espère que la réponse sera de donner effectivement ce droit à toutes les femmes.
C'est votre conviction?
C'est ma conviction. Il va être débattu à l'hémicycle. Je regrette encore une fois que ce soit un débat qui va être porté par les hommes, alors qu'il constitue qui concerne principalement quand même les femmes. En tout cas, c'est leur corps.
Les non, trois non, ministres en charge sont des femmes.
Je suis d'accord, Agnès mais Buzyn, l'hémicycle Nicole est quand Lélubert, même très masculin. L'hémicycle est quand même très masculin. Il y a quelque chose dans ce débat qui m'a surprise, c'est de dire nous avons besoin d'un homme fort à la maison pour construire les enfants. Je rappelle quand même qu'un quart des familles françaises sont monoparentales. Nous avons donc des femmes qui élèvent leurs enfants avec tous les jours au quotidien, qui de leur plein gré ou parce qu'elles ont profité de cette liberté de pouvoir divorcer, etc. Bref, elles ont profité de leurs droits pour pouvoir à un moment dire aussi j'élève mes enfants toute seule et je suis une femme seule, ok, mais qui élève des enfants vont très bien. Tous ces pères absents ne provoquent pas forcément des enfants complètement déséquilibrés. Donc je trouve que mettre ça dans le débat,
c'est quand même juste faire une remarque, pas du tout, mais sûr. Si quand il y a des progrès dans la société, on ne les remarque jamais, il n'y aura plus jamais de progrès. Les trois ministres en charge sont des femmes. C'est quand même pas très fréquent. Je me souviens pas d'une loi qui a été portée par trois ministres femmes. Et la mixité, grâce à La République En Marche, il faut le dire, dont la moitié des 313 députés sont des femmes, la mixité a considérablement
absolument
progressé. Donc, absolument. Si quand il y a des progrès, on les remarque.
Attention, je ne dis pas que
et je précise sur le plateau des informés de France Info.
Oui, et je ne dis pas que ces progrès sont quoi. En tout cas, je ne dis pas que ce soit la responsabilité des hommes.
Je regrette que ça soit porté par des hommes.
Je le regrette.
Mais
ça ne sera
pas porté par des hommes.
Je regrette qu'il y ait beaucoup de sujets, effectivement, de société qui concernent les femmes, qui soient débattues principalement par les hommes. Mais je vous rassure, les hommes peuvent être de formidables féministes.
C'est gentil.
Qui vont soutenir effectivement les causes féminines également. Donc,
Sarah Durieux,
moi, je rejoins
deuxième voix féminine de cette émission.
Je rejoins Absat aussi justement là-dessus, puisque j'ai fait quelques petites recherches avant de venir sur l'Académie de médecine. Je ne sais pas si vous avez rendu un avis.
Ça, oui.
En disant qu'attention, c'était un vrai danger. Alors, je sais pas, désolé, j'avance
rupture
un peu sur le...
Rupture anthropologique. Vous savez ce que je vous propose?
Rupture anthropologique. On va peut-être prendre...
Oui, alors, je cite l'Académie de médecine. La conception d'un enfant privé de père constitue donc une rupture anthropologique majeure qui n'est pas sans risque pour le développement psychologique et l'épanouissement de l'enfant. Sarah Durieux, vous faites bien d'évoquer ce qu'a dit, c'était samedi, l'Académie de médecine. On va y revenir dans un instant. On marque une toute petite pause avec vous. Rappel de l'info avec vous, Jules Dequisse, et on revient sur ces questions.
Le premier jour d'un procès qui va durer plus de 6 mois à Paris, celui de l'affaire du Mediator, le plus grand scandale sanitaire de la décennie. Les laboratoires Servier et l'agence du médicament vont devoir s'expliquer pourquoi cet antidiabétique prescrit comme coupe-faim est-il resté aussi longtemps en circulation vu les dangers qu'il présentait. Plusieurs centaines, voire quelques milliers de personnes seraient mortes selon les expertises. De premières perturbations sur les lignes SNCF ce soir, c'est le début de la grève contre la réforme des retraites. Demain, le trafic sera le plus touché. Un Transilien sur deux, trois TER sur cinq. En Ile-de-France, le RER B roulera très mal. Deux trains sur cinq et pas de rame entre Châtelet et Gare de Lyon. Il faut aller vers la neutralité carbone en 2050, il faut un agenda commercial au service de l'agenda climatique. Dans son discours au sommet de l'ONU pour le climat, Emmanuel Macron détaille ses ambitions. Des chefs d'État réunis pour tenter déjà de sauver l'accord de Paris. À cette occasion, 130 banques internationales promettent de contribuer à verdir l'économie. Elles seront notamment plus transparentes sur les projets qu'elles financent. La Russie a de quoi être inquiète à 10 mois des Jeux Olympiques de Tokyo. L'Agence mondiale antidopage maintient la suspension de tous ses athlètes. Les données fournies par le pays sont incohérentes, explique l'institution. Elle accuse les risques d'un système de dopage institutionnalisé entre 2011 et 2015. Et puis les 9 premiers kilomètres du tunnel Lyon-Turin sont terminés. C'est la première étape symbolique d'un chantier titanesque sous les Alpes. Le plus long de ces tunnels fera 57 kilomètres. Coût total de ce projet, 18 milliards d'euros.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Sarah Durieux, c'était le sens de ma question initiale. Est-ce que ce débat aura lieu ou est-il plié d'avance, puisque je vois que vous avez été choquée par ce qu'a dit l'Académie de médecine?
Oui, cette Académie de médecine, je crois qu'il y a 135 membres, il y a 7 femmes, et donc c'est ces 135 membres qui sont majoritairement des hommes, qui nous disent que oui, un enfant ne veut pas se construire sans une figure masculine, ce que je trouve assez intéressant. Pour moi, le débat, il est déjà fait. On sait très bien que Emmanuel Macron est en faveur, son gouvernement est en faveur, il y a la majorité à l'Assemblée, donc concrètement, ça va passer. Ça se passe toujours comme ça depuis le début du quinquennat.
Oui, ça c'est réglé. Par ça, c'est
contre,
le côté vote. Oui.
Ce que j'espère, c'est que ça, on ne va pas laisser trop de temps justement à ce débat qui, on le sait, génère aussi beaucoup d'homophobie, beaucoup de transphobie. Je rappelle que quand on a eu le débat sur le mariage pour tous, il y a eu énormément de jeunes notamment qui ont été victimes d'homophobie. Le Refuge, qui est une association qui accueille ces jeunes justement qui sont parfois mis à la porte par leurs parents, avait dit qu'ils avaient plus de triplé le nombre de personnes qui les contactaient. Donc j'espère, c'est que ce débat soit vite plié, qu'on passe vite à autre chose pour que ces jeunes ne soient pas victimes, encore une fois, de cette...
Enfin,
de
j'insiste, on a quand même le droit de débattre dans ce pays. Henri Vernet, je rappelle quand même, je cite Éric Woerth, le président de la Commission des Finances, qui était l'invité sur France Info jeudi matin. Il a dit une chose assez parlante. Il a dénoncé une sorte de, dit-il, de bricolage avec la nature. Donc, il est opposé à cette extension de la PMA. Son argumentaire ne repose pas sur... c'est pas très manif pour tous. C'était plutôt du côté de Darwin que ça se passe. Est-ce que l'on a le droit d'avoir dans ce pays, je ne parle pas pour ma paroisse, c'est dans l'absolu des convictions peut-être hostiles à ce type de d'évolution de la société.
Il faut espérer qu'on puisse avoir des convictions sur tout. Moi, honnêtement, je suis un petit peu étonné d'entendre souhaiter qu'un débat soit vite plié, voire qu'il n'y ait pas de débat. Attendez, enfin, on est dans une période de la représentation parlementaire. Notre régime démocratique est sérieusement contesté de toutes parts. Je veux dire qu'il est, même conspué dans bien des pays, en France, mais également en Grande-Bretagne, enfin un peu partout. Et là, on a un débat. En plus, c'est un débat qui est extrêmement intéressant, parce que c'est un débat de société, c'est fondamental. Les réformes de société, souvent, elles sont des marqueurs d'un quinquennat. En gros, chaque président, en tout cas chaque majorité, tient à avoir sa grande réforme. Là, c'est un débat qui est profondément passionnant, parce que c'est vrai que c'est une question de société. Alors, je suis d'accord avec vous, moi, sincèrement, l'Académie de médecine, moi, je ne sais même pas qu'il y en avait encore une, enfin, je n'ai jamais prêté tellement l'oreille à cela. Alors, en effet, qu'il y ait une grande majorité écrasante et anormale d'hommes là-dedans, qu'en plus, elle soit, je veux dire, celui qui s'est exprimé a des convictions politiques. Donc il ne le fait pas uniquement en tant que scientifique, ça bien évidemment, ça c'est une chose. Mais quand au contraire, moi je suis pour un débat extrêmement fécond, et il ne doit pas du tout être expédié. Enfin, ce sont des choix de société. Les parlementaires, ils sont là, on les a élus pour qu'ils nous représentent, pour qu'ils donnent des convictions, qu'ils disent et votent avec leurs convictions. Donc non, au contraire, personnellement, je souhaite un long débat, un vrai débat. Et rassurez-vous, il y a quasiment autant d'hommes que de femmes, sauf erreur. C'est vraiment justement, c'est un progrès. Et qu'est-ce que c'est que cette idée où il faudrait que parce qu'une réforme de concert que ça, enfin qu'une partie de la population qui est quand même 50%, donc qui est extrêmement importante, elle ne soit traitée que par les intéressés.
Ce n'est
enfin,
pas ce
non.
que j'ai dit.
L'humanité composée d'hommes et de femmes, le Parlement, heureusement, lui aussi. Donc attention, le débat, il est pour
et
tout le monde.
Et je trouvais extrêmement intéressant ce que vous venez de dire, c'est que l'humanité est faite effectivement d'hommes et de femmes, et j'incite donc à ce que les femmes puissent prendre la parole autant que les hommes là-dessus. Et ce qu'on voit à l'Académie, effectivement, ça n'a pas été le cas, mais évidemment, je suis assez d'accord. Et puis il y a un sujet aussi pédagogique, je pense au niveau des enfants aussi, de leur expliquer les choses, de pas oublier en tout cas cet aspect-là du débat qui est souvent un problème. On va pas au fond de l'explication pour ces enfants qui naissent justement de ces
PMA
pour
temps.
Expliquer. Alors, donc je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait un débat.
Il faut rappeler pour les opposants au texte, mais on aura largement l'occasion d'y revenir dans les jours qui viennent. Nous serions en train de passer grosso modo d'une impossibilité médicale à la source, c'était l'infertilité, quelque part une revendication sociale, le désir d'enfant tous azimuts, Jean Bornstein. C'est peut-être là aussi que se situe le débat. On n'est pas sur les mêmes bases de réflexion.
Oui, absolument. On sait qu'en gros, la droite est contre. Alors, les Républicains ont essayé de faire preuve de modernité en se disant on va pas se laisser piéger, comme pour le PACS, comme pour le mariage pour tous. Et finalement, on va être moderne. On voit qu'ils n'y arrivent pas du tout. C'est sûr. Mais pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, oui, on peut être contre sans être homophobe. Je suis d'accord avec Henri. On a le droit d'être contre. Moi, je m'engage, je suis résolument pour ce texte, sans restriction. Mais je pense qu'on peut en discuter, et je pense qu'il y a des arguments contre, sans pour autant être taxé d'homophobie.
On a le droit. Alors, je ne dis pas que si on est contre, on est homophobe. Je dis juste qu'on sait que ce genre de débats sont le théâtre pour la manif pour tous, pour faire remonter.
J'avais bien compris, mais je répondais à la question, à la question de Jean-François. Oui, on peut être contre, et je pense que, y compris pour la cause, pour les causes la cause de l'homosexualité, qu'on puisse débattre logiquement de ces questions-là, me paraît plutôt une bonne chose.
Il faudra alors être équipé avec des personnes qui viennent avec des arguments dans ce débat, et ne pas laisser justement avoir la manif pour tous qui arrive et qui, en fait, a la majorité de la parole. Monsieur Mattei, qui est quand même présente ce rapport au nom de l'Académie de médecine, c'est quelqu'un qui est directement lié à la manif pour tous. Donc, on voit bien que ces réseaux sont là présents et déjà en train de faire valoir des arguments.
À l'Assemblée, je crois pas tellement. Non.
Allez, en tous les cas, ça démarre demain à l'Assemblée nationale. Henri Vernet, la une du Parisien, aujourd'hui en France.
On est en train d'en parler, la PMA, le grand débat sur la PMA, encore une fois, en souhaitant un débat vif, intéressant.
Allez, merci à vous, Henri Vernet, merci à Absatoussi, à Sarah Durieux et Gilles Bornstein d'avoir participé à ces Informés de France Info. Je vous donne rendez-vous demain soir pour une prochaine édition. Bonne soirée.